Neuvième opus de notre chronique Vive la Commune. Bienvenue à toutes et à tous sur Micro Rebelle. Nous nous retrouvons chaque semaine jusque fin mai à l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris. Aujourd'hui, nous nous posons une question. Pourquoi la Commune a-t-elle été écrasée? Pourquoi les communards et les communardes n'ont-ils pas triomphé? Pour tenter de répondre à cette interrogation, nous nous appuyons sur les écrits suivants. Premièrement, le numéro spécial d'Alternative Libertaire, intitulé « L'espoir meurtri de la Commune ». Deuxièmement, l'hebdomadaire Politis. Troisièmement, le numéro spécial de la revue Les Utopiques, une revue de l'Union syndicale solidaire, intitulée « La Commune de Paris, mémoire, horizon ». On le sait, la Commune de Paris a été écrasée durant la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. On y reviendra dans une prochaine de nos émissions « Vive la Commune ». Pourquoi les communards et les communards n'ont-ils pas triomphé? Depuis 150 ans, et encore de nos jours, les explications les plus diverses n'ont pas manqué. Nous allons en évoquer quelques-unes et nous efforcer de les discuter. Première explication, il aurait fallu marcher sur Versailles pendant qu'il en était encore temps. On rappelle tout d'abord que Versailles, c'est le point de chute, ou plutôt le point de fuite, d'Adolphe Thiers, chef du gouvernement, et de l'ensemble du gouvernement, dès le 18 mars, début de l'insurrection communarde. Ainsi, le premier reproche qui est fait à la Commune, c'est de ne pas être passé à l'offensive, tout de suite, en marchant sur Versailles. On peut citer entre autres ce qu'écrira Trotsky 50 ans plus tard.
On aurait pu alors écraser la bande gouvernementale presque sans effusion de sang. À Paris, on aurait pu faire prisonnier tous les ministres avec Thiers en tête. Personne n'aurait levé la main pour les défendre. Mais on ne l'a pas fait. Il n'y avait pas d'organisation de parti centralisée ayant une vue d'ensemble sur les choses, ni d'organes spéciaux pour réaliser ces décisions.
Que dire de ce reproche ? Tout d'abord, une sortie a bien été tentée, les 3 et 4 avril 1871. Il s'agit de ce qu'on a appelé une sortie torrentielle, décidée dans la précipitation. Elle s'est conclue par un désastre. Bombardés depuis le Mont-Valérien, les fédérés sont écrasés à Rueil par le général Boulanger. Florence, commandant de la garde nationale, est tué. 1500 fédérés sont conduits dans les prisons de Versailles. Ceux qui avaient été soldats sont passés par les armes sans aucune forme de procès. Ensuite, on peut estimer, avec l'historien Éric Fournier, que faire de Versailles un objectif militaire est discutable.
Face aux Allemands, le gouvernement républicain avait démontré sa mobilité. Il s'était installé à Tours, puis à Bordeaux. Il aurait pu faire de même pour poursuivre la guerre contre la Commune de Paris. Enfin, la raison principale est que l'armée communarde était fondamentalement une force d'autodéfense. Pour la première fois depuis 1789, les révolutionnaires parisiens n'entendaient pas parler au nom de la France ni imposer la Commune comme un gouvernement national par respect pour la démocratie directe locale. La guerre des communards, subordonnée à cet idéal fédéraliste, ne pouvait être que défensive. Du point de vue des insurgés, cette stratégie était cohérente. Politiquement, elle était plus à même de rallier la province. Militairement, le scénario de défensif était plausible. Paris était une des plus formidables villes fortifiées au monde grâce à l'enceinte achevée en 1845 et, depuis le siège prussien, regorgée d'armes et de munitions. Bismarck avait affamé la ville, mais renoncé à donner l'assaut. Pourquoi l'armée versaillaise, hâtivement reconstituée avec les débris des états-majors bonapartistes et des recrues parfois inexpérimentées, aurait-elle osé le faire?
Deuxième explication qui est régulièrement avancée concernant l'écrasement de la Commune, le manque de discipline des communards et communardes. Toujours selon l'historien Éric Fournier, raisonner ainsi révèle une profonde méconnaissance de ce qui animait la base combattante communarde.
Beaucoup de communards n'avaient aucun passé politique avant 1871. Ils ont rejoint la Révolution par le biais de leur engagement dans la garde nationale, sans laquelle la commune eût été inconcevable. Tout comme les révolutions de 1789, 1792, 1830 ou 1848. Ils ont pleinement éprouvé ce qu'était l'autogouvernement, la citoyenneté pleine et entière, dans cette milice civique organisée à l'échelle locale, élisant et contrôlant ses officiers. La garde nationale avait une dimension d'assemblée de citoyens combattants, exerçant le plus directement possible leur souveraineté par la prise d'armes. Mais ces idéaux et ces pratiques rendaient inconcevable un affermissement de la discipline. Le strict colonel Rossel, bref général en chef de la commune, voulant y mettre de l'ordre, s'égare dans une révolte populaire qui ne comprend guère, comme le juge l'historien Jacques Rougerie. Certes, beaucoup de communards étaient d'anciens soldats de métier, parfois même des sous-officiers, mais aucun ne voulut imiter l'armée d'Empire ni reproduire la morgue arbitraire des officiers. La commune fut profondément antimilitariste, comme l'atteste la destruction de la colonne Vendôme, symbole exécré de l'arrogance, de la brutalité et de la fausse gloire napoléonienne. Imaginer qu'imposer davantage de discipline militaire dans ce contexte aurait permis de gagner la guerre n'a guère de sens. Ce que la commune aurait éventuellement gagné en coordination et en rapidité, elle l'aurait perdu en motivation. Et il n'est même pas sûr que, dans un combat devenu pour eux absurde, car reniant leurs espérances, les communards auraient obéi.
Derrière cette explication, concernant le manque de discipline des communards et communardes, on peut bien sûr décrypter, en filigrane, les aléas dus au fonctionnement en démocratie directe durant la commune. À ce sujet, écoutons Tardy. Il a consacré à la commune une belle adaptation du roman de Jean Vautrin, Le cri du peuple, qui restitue avec empathie l'insurrection populaire de la commune. C'est une interview de Tardy dans Politis.
À la question « Que retenez-vous de la commune ?», Tardy répond « C'est d'abord une expérience de démocratie directe. C'est cela, la véritable démocratie. Convoquer les gens pour savoir ce qu'ils pensent et ce qu'ils souhaitent. Plutôt que de déléguer, car c'est ça qui ne va pas. Soit dit en passant, c'était certainement invivable, puisque là signifie des réunions à n'en plus finir, qui doivent statuer sur le ramassage des poubelles ou n'importe quoi. Au bout d'un moment, cela devient une véritable contrainte. D'une certaine façon aussi, cela a entraîné des légèretés qui peuvent paraître impardonnables. Ainsi, le général polonais Dąbrowski, qui commandait une partie de l'armée dans le 13e arrondissement, n'a jamais été vraiment aidé alors que Thiers donnait l'assaut. Dans les tout derniers comptes rendus de la commune, on voit même qu'on débat du prix des places de théâtre ou du fait de savoir si un membre de la commune peut porter son sabre durant certaines cérémonies comme les mariages ou les enterrements. Ils sont donc en train de discuter de ces points extrêmement importants alors que les Versaillais sont place de la Concorde. De même, Jules Vallès raconte que lui et ses amis hésitent sur le restaurant du jeudi soir alors que l'armée est à leur porte. Les types sont quand même un peu légers, ce qui n'altère en rien mon enthousiasme entier pour les communards, bien entendu.
Troisième explication, qui ne concerne pas directement une cause de l'écrasement de la commune, c'est la manière dont la commune a financé son action et s'est comportée avec les banques, et en filigrane, le respect de la légalité et de la propriété privée. La commune s'est refusée jusqu'au bout à forcer les portes de la Banque de France pour prendre l'argent qui s'y trouve. Voici ce qu'en dit l'historien Éric Toussaint.
L'erreur fatale, ne pas prendre le contrôle de la Banque de France. Le siège de la Banque de France, ses principales réserves et son organe dirigeant étaient situés sur le territoire de la Commune de Paris. En 1876, Prosper Olivier Lissagaray, un intellectuel militant qui participa au combat des communards et communardes, dénonçait la commune qui, dit-il, resta en extase devant la caisse de la haute bourgeoisie qu'elle avait sous la main. Il précisait « Toutes les insurrections sérieuses ont débuté par saisir le nerf de l'ennemi, la caisse. La commune est la seule qui ait refusé. » La seule exigence de la commune à l'égard de la Banque de France était d'obtenir les avances financières qui lui permettaient de maintenir l'équilibre budgétaire sans devoir interrompre le paiement de la solde des gardes nationaux. La Banque de France a délié la bourse au compte-gouttes quand il s'est agi de répondre aux besoins financiers de la commune, tandis qu'elle a financé très largement ceux qui voulaient littéralement écraser le peuple de Paris et mettre fin le plus vite possible à la révolution sociale. Pendant les 2 mois de l'expérience de la commune, le gouvernement réactionnaire de Thiers, complice de l'occupant prussien, a reçu 20 fois plus d'argent liquide que la commune.
Bien entendu, derrière cette erreur fatale, selon Éric Toussaint, il y a la timidité de la commune, on pourrait dire le manque d'audace de se lancer à l'assaut de la propriété privée. Car la Banque de France, c'est aussi les fortunes privées de la bourgeoisie. Deux citations à ce sujet. Tout d'abord, Engels.
« La Banque de France aux mains de la commune, cela valait mieux que 10 000 otages. Cela signifiait toute la bourgeoisie française faisant pression sur le gouvernement de Versailles pour conclure la paix avec la commune. »
Et maintenant Jean Grave, un des militants les plus en vue de l'anarchisme français entre 1880 et 1914.
« La commune avait le cadastre, le bureau des hypothèques, les officines des notaires, tout ce qui régularise la propriété bourgeoise. Si, au lieu de menacer, la commune avait fait flamber toute la paperasse, s'était emparée de la banque, les mêmes bourgeois qui insultaient les fédérés prisonniers auraient forcé Thiers à leur venir faire des excuses. C'est que, en révolution, la légalité est non seulement une blague, mais une entrave. » Ce ne sont pas des discours, des paperasses ni des lois qu'il faut en période révolutionnaire, mais des actes. Au lieu de voter la déchéance des patrons en fuite, il fallait de suite mettre leurs ateliers en possession des travailleurs qui les auraient fait marcher. Et ainsi, en toute chose, au lieu d'une loi, d'un décret qui restait à l'état de lettre morte, un fait.
Quatrième explication, l'anachronisme d'une défense barricadière, quartier par quartier. Écoutons ce qu'en dit l'historien Éric Fournier.
Les archives révèlent que le chef du gouvernement, Adolphe Thiers, était très inquiet à la perspective d'une guerre dans les rues de Paris. D'autant plus que la commune affirmait régulièrement sa détermination à s'envelir sous les ruines de la cité. Cela le décida à une approche prudente, par un bombardement méthodique détruisant des banlieues entières. C'est au moment où les Versaillais étaient aux portes de Paris que l'on put imputer au manque de discipline et à la déficience de la chaîne de commandement une faute majeure. L'ennemi pénétra dans le 16e arrondissement de la capitale le 21 mai, à un endroit où l'enceinte n'était pas gardée. Les insurgés regagnèrent alors spontanément et en désordre leur quartier dans l'Est populaire. Une des dernières affiches de la commune proclama « Que Paris se hérisse de barricades et que derrière ses remparts improvisés, il jette encore à ses ennemis son cri de guerre, cri d'orgueil, cri de défi, mais aussi cri de victoire, car Paris avec ses barricades est inexpugnable. » Ce fut là une cause supplémentaire de la défaite de la commune, plus fatale encore que son indiscipline ou que sa prétendue modération. C'est l'anachronisme de sa tactique de guérilla urbaine. Les communards avaient une guerre de retard. La modernité était versaillaise. Ordre fut donné de ne jamais attaquer les barricades de front, mais de les encercler soit en passant par les rues adjacentes, soit en cheminant à travers les immeubles, c'est-à-dire en perçant les murs et les cloisons pour établir des positions de tir surplombantes. Les Versaillais perfectionner ainsi des tactiques expérimentées durant la révolte ouvrière de juin 1848. Contrairement à une idée reçue, en fait, peu de barricades furent attaquées au canon. La plupart furent encerclées et submergées. L'incendie de la ville par les communards apparaît comme une réponse improvisée à ce cheminement des soldats, en leur opposant ce que Louise Michel appela une barrière de flammes.
Et puis, pour terminer, on peut évoquer une des causes majeures du pourquoi les communardes et communards n'ont pas triomphé. C'est avant tout l'isolement de Paris, du fait de l'échec révolutionnaire en province qui a condamné la Commune. Nous avons eu l'occasion, dans une précédente émission, d'évoquer les tentatives de mise en œuvre de communes à Lyon, Marseille, Narbonne, Le Creusot, Limoges, Saint-Étienne, etc., etc. La Commune de Paris était effectivement combattante et résolue, et il lui a finalement manqué une chose fondamentale, l'extension de la Révolution à d'autres villes de province pour ne pas se battre seule. Voilà, cette neuvième émission Vive la Commune se termine. On se quitte avec le groupe Dubamix, un groupe qui se présente comme faisant du dub rouge et noir. Il nous interprète Versaillais, Versaillais. Rendez-vous dès la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien. Bye bye.
Place au peuple, place à la Commune.
L'hiver 71, c'est l'hiver du chaos, l'hiver de la défaite devant les Bruscos. L'hiver de la souffrance et l'hiver de la faim, l'hiver des collabos, des faux républicains. Il commence à fleurir des cocards écarlates, et dans la rue bientôt, le cri du peuple éclate. En insurrection, et Paris doit lutter contre la réaction. Étudiants, ouvriers, armez vos chasse-pots. Du haut des barricades, agitez vos drapeaux. Agitez vos drapeaux, les Versaillais canonnent. Agitez un mouchoir, rouge du sang d'un homme. Avec la cruauté d'une bête sauvage qui ira tuer la Commune en un rouge carnage. Derrière les tombes et les croix d'un cimetière, à 10 contre 200, les révolutionnaires, les derniers fédérés, contre un mur sont tombés, ne murmurant qu'un mot, le mot fraternité.